Radio J, le grand entretien.
Shmuel Trigano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et sociologue. Vous avez, si les comptes sont bons, publié 35 ouvrages. Oui, 35 ouvrages. On va citer le dernier. Les chemins de Jérusalem, paru chez les provinciales. Vous vous y posez notamment la question de la normalité, posée en des termes différents d'ailleurs par un autre intellectuel qui, comme vous, est un auteur qui est un peu chez lui sur Radio J. C'est Denis Charbit qui pose la question. Israël, impossible, est anormal. Mais aujourd'hui, important, on est avec vous pour parler notamment de cet ouvrage, Le chemin de Jérusalem, une théologie politique parue aux éditions Les Provinciales. Alors, vous vous êtes battu, dites-vous, pendant 2 ans pour écrire ce livre. Pourquoi avoir mis aussi longtemps, vous qui avez publié 35 ouvrages? Normalement, peut-être que ça vous prend un peu moins de temps. Qu'est-ce qui vous a fait passer autant de temps sur ce livre?
Bien, je me suis battu avec moi-même. J'ai réécrit le livre 2 fois de suite. Parce qu'en fait, c'est une sorte de conclusion de 50 ans de pérégrination intellectuelle. J'ai cherché à comprendre, depuis le temps où j'ai été jeune étudiant à l'Université hébraïque de Jérusalem, pourquoi la résurgence d'un État juif s'est accompagnée d'une volonté de normalisation, c'est-à-dire en fait de s'aligner sur la réalité générale. Une envie problématique, parce que je crois que les Juifs sont les seules personnes au monde à vouloir être normaux. Et j'ai été rattrapé par les événements, à savoir ce qui s'est passé le 7 octobre, ou ce que reflète mon introduction, qui a été en quelque sorte la preuve que nous ne sommes pas considérés comme des êtres normaux par l'environnement du Moyen-Orient, mais également par l'arrière-plan de l'Europe. Je veux l'illustrer d'une façon claire. Aussitôt après la compassion qu'a suscité ce massacre, un climat d'accusation,
d'hostilité.
D'antisémitisme, oui. On ne l'a pas appelé comme ça au début, mais il s'avère que c'était le cas. Démontrer en quelque sorte aux Israéliens qu'ils n'étaient toujours pas normaux. Alors,
Est-ce que. Parce que les autres ne vous trouvent pas normaux, est-ce qu'il faudrait en quelque sorte s'y conformer et soi-même accepter de ne pas l'être, peut-être dans une acception différente, mais en tout cas dire oui, effectivement, quand on est juif, on n'est pas normal.
Le problème, c'est qu'il n'y a que les juifs qui veulent être normaux sur la planète. Personne d'autre ne souhaite devenir autre que ce qu'il est.
Mais parce que être normal, c'est ne pas être juif.
Être normal, c'est s'aligner sur une règle supposée générale, supposée commune, et ne pas, en quelque sorte, s'inscrire dans la continuité de cet héritage symbolique. Je dis pas simplement religieux, c'est bien plus vaste, la dimension culturelle, parce que j'ai eu l'occasion de m'intéresser en Israël au manuel d'histoire juive des lycées. Et on voit très bien quel chaos de représentation c'est. Et on n'a pas encore trouvé, Israël n'a pas encore trouvé une façon d'intégrer dans la cohérence, une cohérence qui ne serait pas idéologique ni religieuse, mais une cohérence intellectuelle, sociologique en quelque sorte, tous les éléments épars de cette extraordinaire histoire de 25 siècles, c'est quelque chose qui est considérable.
Alors, vous dites, il n'y a que les Juifs qui veulent être normaux, mais qui voudrait ne pas être normal non plus? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une normalité et une anormalité?
Alors, c'est tout le problème de la modernité. Michel Foucault a écrit un livre où il montre comment on a créé une entité qui s'appelle les anormaux, ceux qui échappent aux normes médicales, psychiques, etc., qui sont considérés comme anormaux. Mais en fait, si être normal, c'est être comme les autres en tant qu'être humain, évidemment, personne n'est contre ce désir-là. Mais c'est quelque chose de plus.
C'est
ici,
quoi ?
C'est cette identité particulière qui s'est créée tout au long de 25 siècles. Et ce qui est le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'il y a, d'un côté, il y a l'apothéose de l'espérance juive avec la création d'un État, d'une société, etc. Et de l'autre, cette déception vis-à-vis de sa conscience d'elle-même à ce niveau-là. Et ça, c'est une expérience.
C'est-à-dire?
Ben, si vous voulez, par exemple, je vous donne une expérience du jeune étudiant que j'étais à l'Université hébraïque. Vous avez histoire juive et histoire. Philosophie juive, etc. Il n'y a pas de sociologie du judaïsme contemporain, c'est dans un cadre différent. Et donc, il y a une partition qui est faite. Et quand on vient de France, on est stupéfait, parce qu'en fait, à l'époque, je dis bien à l'époque, parce que les choses ont changé, quand on étudiait l'histoire, il était bien évident que c'était l'histoire de France qui était le cadre de l'histoire mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution négative à mes yeux, mais en Israël, ce n'était pas l'histoire juive qui était le centre de mon point de vue sur le monde. C'est ça, si vous voulez, parce que le point de vue sur le monde, il est toujours intellectuel, il y a toujours une dimension
particulière. Mais est-ce qu'on peut ne pas comprendre cette façon d'être, finalement, ou de faire, sachant que l'étatisation des Juifs est récente. Les Juifs ont une histoire diasporique beaucoup plus longue qu'une histoire étatique, en réalité. C'est peut-être ce qui explique ce que vous nous dites par rapport à la centralité du fait juif qui n'est pas effective, y compris, par exemple, dans des universités en Israël.
Alors, qu'elle le soit dans des universités en dehors d'Israël, je n'ai rien à dire. Qu'elle soit en Israël, ça me pose un problème. Parce qu'en fait, il s'agit pas d'être. Je n'insiste pas nécessairement sur la force de l'identité. C'est une civilisation, le judaïsme. Quand le temple a été détruit et quand l'État a disparu, il n'y avait plus de cadre pour porter le judaïsme. Et à ce moment-là, c'est le rabbinat qui s'est constitué, en quelque sorte, les pharisiens, le Talmud, etc. Et en vertu d'un fondement constitutionnel du judaïsme, il y a une pensée politique qui estime que dans la société juive, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir de la Torah, les prophètes, le pouvoir du temple, le grand prêtre, et la royauté, et le pouvoir de la royauté. Et donc, lorsque la royauté a disparu, le temple a disparu, il n'y avait plus de pouvoir sacerdotal ni de pouvoir royal civil, le rabbinat a fait une sorte de coup d'État en déclarant « Nous sommes les héritiers des prophètes, nous avons une plus grande autorité, il n'y avait plus de prophètes non plus, une autorité plus importante qu'eux puisqu'elle est intellectuelle, et nous allons cumuler les trois responsabilités. » Le temple, l'État et la pensée, la morale, en quelque sorte.
Mais cette pensée politique juive que vous expliquez constitutif avec la Torah, le temple et la royauté, est-ce que la pensée juive, ça devrait être quelque chose de figé sur ces trois sphères-là, ou est-ce qu'on ne peut pas aussi l'envisager comme quelque chose de dynamique ?
C'est pas du tout figé. C'est un modèle anthropologique.
D'accord.
Là où vous trouvez une vie organisée, vous retrouvez ces trois pouvoirs. Seulement, à l'origine, ils ne devaient pas être cumulés. Ce n'est pas le même détenteur qui porte tous ces pouvoirs. Faute de temple, faute d'État, le rabbinat remplit ce rôle.
Qu'est-ce qui rend les juifs anormaux ?
Là, rien du tout.
Non, mais dans la façon dont ils sont perçus, puisqu'ils sont perçus comme... Non,
alors, quand toutes ces destructions ont été consommées, toute la civilisation hébraïque s'est trouvée condensée dans la coque de la religion. Aujourd'hui, nous avons vu l'apparition à nouveau du pouvoir politique. Évidemment, l'État n'est pas l'État de David... Mais sur le plan de la morphologie anthropologique, il est tout à fait...
C'est pouvoir... pas un État théocratique non plus.
Non, ce pouvoir s'est reconstitué. D'où l'ébranlement du judaïsme qui avait tout concentré sous l'égide de la religion. De même, je vous signale que ça a été aussi imposé par le Sanhédrin napoléonien, ça a été auparavant par l'empereur perse Cyrus, etc. où l'existence juive est devenue une existence plus liturgique que politique. Mais il n'y avait pas le moyen de faire autrement. Aujourd'hui, c'est reconstitué une dimension politique à travers l'État d'Israël. Du coup, l'économie de la diaspora est complètement ébranlée. Il faudrait réinventer la philosophie politique. Il faudrait savoir que représente aujourd'hui le pouvoir prophétique. Qui détient l'autorité prophétique? Ce sont des problèmes très concrets. Et en fait, nous restons encore dans les langes de la diaspora.
Pourquoi, d'après vous, c'est des problèmes très concrets? Parce que quand vous expliquez ça, bien sûr, d'un point de vue théorique, j'ai envie de dire, on le comprend. Mais quand vous dites que c'est très concret, on a du mal à comprendre ce qui est concret dans ce que vous dites, c'est-à-dire ce qui serait concret, par exemple, dans la vie d'Israël, et puis ce qui serait concret en diaspora, puisque...
Par exemple, comment définir le pouvoir du rabbinat par rapport au pouvoir de l'État? Quel est le problème, le statut des élèves de yeshiva pour faire leur service militaire? Donc, si vous voulez... Le judaïsme traditionnel n'a pas véritablement encore accusé le coup de ce bouleversement. Et donc, il y a une question constitutionnelle qui est posée. Moi, j'essaye d'y répondre à partir de cette tradition politique, parce qu'il me semble qu'elle est la structure même de la condition politique et collective des Juifs.
Alors, vous parlez d'une question constitutionnelle, et c'est très intéressant, puisque Israël est aussi un pays sans constitution. Est-ce que...
Absolument, voilà. Oui, votre rapport est intéressant, effectivement. Donc la question est restée non résolue, pour
l'instant.
Est-ce
qu'il faut la résoudre?
Je crois qu'il faut la résoudre.
Pourquoi?
Parce que nous ne la vivons que sur le mode de la crise. Et donc, il y a des solutions, mais qui demandent un effort créatif.
Quand vous dites « nous ne la vivons que sur le mode de la crise », vous parlez-vous en tant que juif ou vous en tant qu'israélien juif?
En tant qu'israélien.
D'accord.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous fait considérer, depuis le 7 octobre, effectivement, on voit bien la crise, mais sur toute l'histoire d'Israël, il n'y a eu que des crises, puisque vous dites « ça nous fait considérer ça qu'en termes de crise ».
Dans toute histoire, il n'y a eu que des crises. L'histoire en général, c'est le propre d'une société d'avoir des conflits, des oppositions, etc. etc. Et donc, je pense que c'est à l'ordre du jour de la politique israélienne. Évidemment, ça demande une grande distanciation réflexive. C'est pas la politique au jour le jour laquelle on est confronté, la guerre, etc. Mais il y a un problème...
C'est un problème structurel ou conjoncturel?
Structurel.
Pourquoi?
Parce qu'il doit être résolu en fonction d'une structure anthropologique permanente. Il y a eu des travaux qui ont montré que ces trois pouvoirs, vous les retrouvez à toutes les époques de l'histoire juive. Dans la diaspora comme dans l'indépendance.
Et aujourd'hui, lequel nous fait le plus défaut? Lequel fait le plus défaut à Israël notamment? Qu'il faudrait lui ajouter pour que les choses, en tout cas d'après vous, soient stabilisées?
C'est une question difficile que vous me proposez.
Oui.
J'ai conçu l'idée du sionisme de Jérusalem. Et non pas après le sionisme de Sion, le sionisme de Jérusalem. Jérusalem comme un poste à travers lequel l'esprit juif s'adresse à toute l'humanité, à tous les peuples de la terre, que nous représentons d'une certaine façon en nous rassemblant à Jérusalem. Et donc, le problème, c'est comment reconsidérer les pouvoirs du rabbinat, comment reconsidérer les pouvoirs de l'État, et qu'est-ce qu'un pouvoir prophétique, un pouvoir qui représente les valeurs, la morale, etc. Ça demande encore à être pensé. Et je suis d'ailleurs entré en Israël pour le penser, parce que je crois que c'est une question concrète, théorique évidemment, mais très concrète.
Est-ce qu'Israël ne se construit pas aussi sur une forme d'incomplétude, puisqu'il y a effectivement des juifs en Israël? Israël, c'est l'État juif ou l'État pour les juifs, ça dépend à qui on s'adresse, mais il y a aussi des juifs en dehors d'Israël. Est-ce que finalement, cette incomplétude, ça ne fait pas aussi une identité fixe, certes dynamique, mais fixe d'Israël?
Vous avez raison. C'est aussi une réalité parce que, si vous voulez, il faut comprendre l'architecture du monde juif. Il y a le peuple juif. Dans le peuple juif, vous avez la nation israélienne, qui n'est pas exactement le peuple juif, puisque dans le peuple juif, il y a des juifs de nationalités différentes. Okay ? Et il y a une différence entre les deux dimensions. Quoi que nous fassions, nous sommes toujours dans le peuple juif, dans ce que vous appelez incomplétude.
Oui.
C'est intéressant. C'est un concept très intéressant. Alors, quelque chose d'important que votre notion me suggère, on n'est jamais totalement entier et complet dans la condition juive. Ça cloche toujours quelque part, mais c'est très important ce que je vous dis. Ce qui cloche, c'est la présence divine dans la collectivité. Parce que dans le discours sur le peuple juif, la divinité dit « je résiderai au sein des enfants d'Israël », ce qui est une idée impossible. Comment l'infini peut-il résider dans la finitude? Mais ce balancement, ce décalage, il est structurel. Et dans le livre, je le montre, justement, c'est une des explications.
Et c'est ce qui fait peut-être aussi... Ce fait que Israël n'est pas un État comme les autres, mais finalement est un État comme les Juifs, qui sont un peuple dispersé, un peuple qui a mis longtemps à s'étatiser, un peuple qu'on a réduit à une religion. Est-ce que finalement Israël, ça peut être un État qui serait complet?
Alors, ce qu'on entend par complet, je ne sais pas.
C'est-à-dire cadré avec, par exemple, vous parlez de la pensée politique tout à l'heure, le pouvoir de la Torah, le pouvoir du temple, le pouvoir de la royauté.
Je crois que nous sommes confrontés à la nécessité de repenser l'existence collective qui a changé depuis la création d'un État d'Israël. Et ce changement.
Quels en seraient les piliers?
Les piliers, ce serait d'abord l'inscription dans cette histoire, ça me semble capital. J'ai eu l'occasion de travailler sur les manuels d'histoire juive dans les lycées israéliens. C'est assez catastrophique. C'est incohérent. Il y a des histoires qui manquent. Parce que nous sommes une histoire mondiale. Nous avons une histoire mondiale qui va de la Perse jusqu'aux Caraïbes et à travers l'histoire, etc., etc. Et donc, l'éducation israélienne, qui a été confrontée à des problèmes idéologiques aussi, être normal, c'était cesser d'être juif, persécuté par les nations, etc. C'était ça aussi. Et ça a conduit...
Israël était censé normaliser les juifs.
Oui, et on enlève les juifs, ce qu'écrit Herzl dans son livre, on enlève les juifs qui posent problème, et nous revenons dans le concert des nations reconnus comme membres de la société israélienne. C'était le deal, en quelque sorte, de Herzl dans l'État juif. Ben, ça suffit pas. Ça suffit pas. On voit très bien que aujourd'hui, là, c'est un échec pour Herzl, que le rejet d'Israël sur un plan mondial pose un problème moral, eschatologique. Je dis souvent unique. Ça n'arrive qu'aux Juifs d'être rejeté par toute l'humanité au sommet, à l'ONU, à la CPI, etc., etc. Ça, c'est le côté dramatique de la normalité avec le A privatif. Mais la normalité avec le A consistant, si vous voulez, c'est véritablement la conception de la cité de Jérusalem. C'est-à-dire qui devait être autre chose que Athènes. Il y a un dialogue entre Athènes et Jérusalem sur le plan de l'histoire politique.
Pourquoi Jérusalem on comprend dans l'histoire pourquoi Jérusalem, c'est le centre, et on comprend aussi dans la culture, dans la religion, etc. Mais vous vous dites le sionisme de Sion et le sionisme de Jérusalem, pourquoi c'est différent ?
Oui, parce que je me situe déjà sur un acquis. L'État-nation a été créé, mais le judaïsme ne s'arrête pas à ça. Il est bien plus grand. Il a un discours à l'humanité, il a une
vision. Le judaïsme ou la judéité ou les deux ?
Alors, la judéité, c'est ce qui rassemble le judaïsme et les juifs. Le judaïsme lui-même, c'est les dogmes d'une religion. La judéité, c'est l'essence. Donc, quoi que fassent les juifs, ils sont dans la judéité, même s'ils rejettent le judaïsme. Et donc, il faut en rendre compte à ce niveau-là. Oui, j'emploie la notion de civilisation dans ce livre pour bien montrer l'envergure, la différence d'envergure. Il ne s'agit pas de se replier sur une identité. J'ai coutume de dire, il n'y a pas d'identité juive. Je vais vous dire pourquoi. Car le juif n'est pas identique à lui-même. Déjà, concrètement, dans la Genèse, il y a une femme derrière l'homme. Donc, l'humain n'est pas identique à l'homme. Il implique la dimension féminine, la deuxième dimension. Et en quelque sorte, nous avons toujours aujourd'hui une deuxième dimension. Nous avons été les citoyens créatifs de l'Occident, des pays que nous avons habités. Aujourd'hui, il y a eu la Shoah qui a reflué tout ça, la disparition du monde juif en monde arabe, arabo-musulman. Et donc, c'est une nouvelle donne du jeu qui a été faite. Et c'est pourquoi je pense que dans cette période de confusion, de troubles, etc., d'espérance, il y a un travail nouveau à faire. Retrouver, en quelque sorte, la vocation sur le plan de l'humanité du peuple d'Israël. Parce qu'en fait...
C'est quand vous dites retrouver la vocation, quelle vocation ?
Ben, vous savez... Il y a un personnage bizarre dans la Torah, c'est le prophète. Son enseignement est en fait la base des dimensions juridiques, etc. La question, c'est le prophète. Les prophètes ont forgé cette idée d'une adresse aux nations. Et j'essaie de l'exprimer en quelque sorte objectivement. Dans le sionisme, il y a ce qu'on a appelé le kibbutz galouyot. Le rassemblement des exils. Je préfère cette traduction au rassemblement des exilés. Mais dans l'Israël de l'État d'Israël, le rassemblement des exilés a été une sorte d'entassement d'identité secondaire. Et puis il y a eu le melting pot de Ben Gurion, qui aujourd'hui a disparu complètement. Quand vous arrivez en Israël, vous devez choisir à quoi j'appartiens. Aux religieux, aux ultra-orthodoxes, aux laïcs, aussi, etc., etc. Et donc, c'est une société multiculturaliste dans le sens négatif de ce terme, à mon sens. Mais par contre, qu'est-ce que représente le rassemblement des exils juifs à Jérusalem ? Que chacun de nous vient de la galoute en portant une autre identité que notre identité juive. Et ce n'est pas un reste qu'on doit abandonner, qu'on doit rejeter. Pas du tout, de toute façon, on ne peut pas l'abandonner. Ok, j'ai écrit mes ouvrages en français, j'ai pensé l'hébreu en français, et ça a un sens à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsque nous convergeons dans l'Aliya vers Sion, en fait, nous rassemblons à travers nous tous les peuples de l'humanité. Nous les rapportons à la source première. L'idée...
Pourquoi on rassemblera à travers nous tous les peuples de l'humanité ? Parce qu'on ramène un bout de...
Parce qu'il y a une tradition, biblique importante. Le monde tel qu'il a été créé ne se suffit pas à lui-même. Il y a un accomplissement à faire. Et cet accomplissement est confronté à un choix, soit l'idolâtrie, soit Abraham. Et on voit que le cheminement abrahamique est un cheminement qui conduit... à travers toutes sortes d'épreuves, etc., qui conduit vers l'anti-Babel. Parce que le problème, ça a été Babel, l'assemblée de l'humanité qui tourne mal, qui veut prendre la place du créateur, etc. Et cet anti-Babel, en quelque sorte, s'est vu opposer la Nouvelle Jérusalem. C'est dans ce cadre-là qu'on peut penser les choses.
Radio J. Radio J, le grand entretien.
Radio J. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Radio J, donc au cœur de ce grand entretien avec Shmuel Trigano, philosophe, sociologue, qui a déjà, et oui, ça passe vite, publié 35 ouvrages dans sa carrière. Et le dernier en date, hein, Le chemin de Jérusalem, une théologie politique, est paru aux éditions Les Provinciales. Alors, évidemment, ce qui traverse cet ouvrage, puisque effectivement on n'arrête pas d'en parler depuis le début, c'est la normalité et la normalité, elle, apostrophe. Évidemment, depuis le 7 octobre, et ça, c'est impossible d'en faire l'impasse, bien évidemment, le statut spécial d'Israël s'est imposé à nous tous. Statut spécial, notamment par rapport aux réactions qui ont suivi le 7 octobre, puisqu'elles se sont répandues partout dans le monde, avec une hostilité pour les Juifs en général, dans plusieurs pays, dans des pays européens, aux États-Unis également, et puis ailleurs. Et puis aussi une défiance ou une incompréhension qui se creuse au fur et à mesure que cette guerre déclenchée par les massacres antisémites du 7 octobre dure. Justement, Shmuel Trigano, le chemin de Jérusalem, est-ce que vous l'auriez conçu de la même manière après le 7 octobre ?
Tout à fait. Le livre a été écrit en fait avant le 7 octobre. Évidemment, je rends compte dans mon introduction de cette nouvelle donne. Mais notre histoire, elle est plus forte, elle continue, évidemment qu'elle continue. Et donc il faut pas, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre ? Il ne suffisait pas aux terroristes de tuer les Juifs, il fallait qu'ils les déshumanisent en les coupant en morceaux, en commettant toutes sortes de crimes considérables. Et c'est un signe, c'est très fort dans ce sens-là. Évidemment, on a fait un parallèle avec la Shoah où les Juifs ont été traités.
En tout cas, un ressenti qui renvoie bien sûr à ça.
Comme des objets, comme des corps inertes, etc. Donc, c'était une atteinte à l'humanité des Juifs. Et on comprend le sursaut de l'État d'Israël contre cette donne.
Cette déshumanisation des Juifs, elle a lieu de façon extrême le 7 octobre. Et puis, elle a des cercles concentriques, hein, parce que la déshumanisation des Juifs, elle se trouve aussi après, ailleurs. Par exemple, lorsque on réduit les Juifs en leur disant « si tu es attaché à l'État d'Israël, tu es un fasciste, voire tu es un génocidaire », c'est une insulte qu'on entend énormément depuis le 7 octobre et après, de réduire des Juifs à des génocidaires. Vous, quel regard en tant que sociologue, philosophe, vous posez là-dessus, sur cette accusation faite aux Juifs en général ?
Mais il y a une manipulation idéologique qui a été faite. Dans la mesure, pour comprendre cette manipulation, je citerai Edward Said, qui était un intellectuel palestinien, qui définit les choses comme ça. Les Palestiniens sont les victimes des victimes. La première victime est donc un bourreau dans le rapport à la deuxième victime. Et ça a été, en fait, la base théorique de la manipulation de la mémoire de la Shoah, qui a produit tout un ensemble de conséquences idéologiques à tous les niveaux.
Mais est-ce que après le 7 octobre, c'est ça qui est vertigineux dans ce que vous expliquez, après le 7 octobre, est-ce que la victime de la victime peut continuer à rester la même ? Il y a même quelque chose qui se renforce par rapport à Israël et par rapport à ce qui s'y passe après le 7 octobre. On le voit, hein, il y a 3 semaines, entre le 7 octobre et le début des opérations israéliennes contre la bande de Gaza. Et dans ces 3 semaines, c'est là, par exemple, ailleurs dans le monde, où il y a les pics d'antisémitisme les plus élevés, alors qu'Israël n'a même pas riposté, répondu à ces terribles massacres.
Ça, c'est le problème de la mémoire de la Shoah qui s'est forgée en Europe, surtout en Europe. À savoir que, en fait, pour aller vite, l'Occident nous préfère en pyjama rayé, mais pas en habit sale.
Mais quel rapport avec, avec la mémoire de la Shoah?
L'Occident s'est accusé lui-même. Il a pris sur lui sa responsabilité, sa culpabilité, ce qui est très lourd. Et pour se libérer de cet étau, c'est très gratifiant d'accuser les Juifs de pratiquer un nouveau génocide.
En quoi est-ce gratifiant?
Ça allège le sentiment de la faute occidentale, en quelque sorte. Donc l'Occident ne veut pas du juif souverain, il veut du juif en habit de pyjama, les pyjamas de la Shoah.
Vous dites l'occidental, mais ce qu'on a vu en matière d'antisémitisme est loin de se limiter à l'Occident. Après le 7 octobre, il n'y a pas qu'en Occident où il y a eu des manifestations d'antisémitisme.
Oui, justement, là c'est toute la différence entre le monde chrétien et le monde musulman. Dans le monde musulman, l'existence d'Israël est perçue comme une rébellion. Rébellion contre la divinité, rébellion contre la Oumma. Et donc, elle n'a pas le droit d'exister.
Et dans le monde chrétien?
Dans le monde chrétien, c'est une faute métaphysique. Et à travers la dimension de le sentiment de culpabilité sacrificielle, l'Occident a intériorisé, en quelque sorte, sa faute, tout elle l'étouffe. Et c'est une faute considérable. Et donc, le fait qu'il y ait des juifs pas très recommandables ou qui pratiquent le génocide allège ce sentiment de la faute. J'ai écrit un livre là-dessus, L'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah, justement pour analyser la morale sacrificielle. Et il y en a un autre qui s'intitule Les frontières d'Auschwitz. Parce que justement, les frontières d'Auschwitz, c'est la traduction politique, c'est une expression de celui qui était un ministre des Affaires étrangères, Abba Eban, qui avait parlé des frontières d'Auschwitz pour marquer les limites existentielles de l'existence d'Israël aux yeux de l'Occident, pas de l'Orient.
Shmuel Trigano, le chemin de Jérusalem, est-ce que ce n'est finalement pas ce que vous y plaidez, une forme d'émancipation radicale?
Oui, tout à fait, et créative. En fait, je conçois ce livre comme la conclusion de 50 ans d'écriture. Durant ces 50 ans d'écriture, j'ai essayé de concevoir ce que vous appelez l'émancipation. C'est exactement ça.
Et
comment
radical.
Le sujet juif peut se retrouver, réapparaître à nouveau dans le monde contemporain. Et donc j'ai senti le besoin de clore ce cycle-là. Si Dieu me prête vie, il y aura éventuellement d'autres livres. Mais je souhaitais... je suis arrivé à l'entrée de Jérusalem. Je peux dire « Hineni, me voici », comme le dit Abraham en quelque sorte. Maintenant commence une autre histoire, et un autre défi que peut-être je n'affronterai pas, je n'en sais rien, mais qui en tout cas me semble pouvoir être affronté, parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'ai analysé tout ce qui nous a fait perdre notre émancipation, notre liberté, la liberté du sujet juif. J'existe, je suis souverain dans mon existence. Et ça me semble quelque chose de fondamental de le dire aujourd'hui. Il faut pas s'inscrire dans l'éternité de la compassion après les massacres qui se sont produits. C'est très important évidemment, mais il faut les porter, les dépasser plus loin à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autre issue de toute façon là. Notre histoire ne s'arrête pas. Elle ne fait que commencer, que recommencer. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre, évidemment, avec les mots du vieux monde.
Shmuel Trigano, c'est effectivement cet ouvrage, Le chemin de Jérusalem. Vous expliquez que c'est un peu un cercle qui se referme. Et pourtant, dans ce cercle qui se referme, il est question de chemin. Alors, pour un cercle qui se referme, vous continuez à cheminer. Est-ce que dans ce cheminement, vous espérez quelque chose de précis au bout de ce chemin?
Ben, c'est toute la question, justement.
Est-ce qu'il y a un bout de chemin? Est-ce qu'il y a...
Il y a un bout de chemin, l'assumerai-je? Je ne maîtrise pas la réponse à cette question, mais nous avons devant nous une extraordinaire créativité intellectuelle à mettre en œuvre, justement pour faire face à ce défi que représente l'existence d'un état d'Israël.
Mais l'état d'Israël, quand on y réfléchit, il est quand même jeune. Et les Juifs ont passé, on le disait tout à l'heure, hein, la majorité de leur existence sans être étatisés. Finalement, n'est-ce pas normal que pour l'instant, cet état continue d'être anormal, puisqu'il est neuf? Et que, effectivement, les Juifs, dans leur histoire, la plupart de leur histoire, s'est fait en étant étatisés, mais ailleurs, pas en tant que Juifs.
Ben, il faut faire un état des lieux, déjà, de cette réalité. Et donc, moi, je crois qu'une nouvelle ère de créativité s'ouvre.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'est une nécessité de notre histoire, de cette dimension
par quoi elle se manifeste.
Des trois pouvoirs. Est toujours présente, mais non résolue. Et donc, mon souci, au départ, était non seulement de développer une métaphysique juive, mais également une politique qui n'est pas la politique d'Athènes, mais la politique de Jérusalem, dont s'étaient inspirés, d'ailleurs, les protestants au XVIIe siècle en Europe. Et il faut que nous retrouvions la force de nous confronter à cette nouvelle donne. Et ça demande un effort permanent à ce niveau-là.
La politique de Jérusalem, est-ce que c'est une forme light ou de messianisme? Et est-ce qu'il y aurait une forme d'émancipation dans le messianisme?
Oui, il y a une dimension messianique, évidemment, puisque... C'est une aspiration à quelque chose de plus que la réalité concrète à ce niveau-là, une aspiration nouvelle. Si vous voulez, c'est en quelque sorte le retour des Juifs en Eretz Israël a été comme la résurgence des temps bibliques. Comment se situer à hauteur de cette dimension-là?
Pourquoi la référence devrait être les temps bibliques?
Mais parce que la création d'un État juif...
C'est un État juif ou un État pour les Juifs?
Peu importe, c'est pas ça la question.
Pourquoi peu importe?
Parce que c'est un problème qui est à penser, encore une fois. Mais la résurgence d'un établissement juif en Eretz Israël est un bouleversement historique considérable... Nous voyons, nous retrouvons le paysage biblique originel, mais comment le concevoir? Comment le digérer d'une certaine façon conceptuellement?
Est-ce que c'est trop lourd, peut-être? Il y a cette question qui se pose.
C'est lourd, oui, c'est lourd, mais le destin juif est lourd.
Justement, est-ce que il ne faudrait pas accepter cette façon qu'Israël a d'être toujours en conception, en évolution, parfois un peu instable, un pays qui ne serait pas totalement défini. D'ailleurs, c'est un pays, en tout cas au niveau des normes internationales, c'est un pays qui a même pas de frontières.
Je suis pas d'accord. C'est la pseudo-Palestine qui n'a pas de frontières. C'est une invention totale. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème de l'État-nation d'Israël, c'est qu'il a des frontières. et que cette question des frontières se pose considérablement.
Justement, si elle se pose, c'est que les frontières sont peu ou mal définies. Les frontières, puisqu'on est à Paris, les frontières de la France, par exemple, ne se posent pas.
Ça dépend pour qui. Vous avez des réseaux d'influence qui franchissent les frontières également.
Et
qui...
Non, mais franchir une frontière, ça ne la remet pas en question. La frontière, elle est là et elle est reconnue de tous. Pour Israël, la question des frontières, et pour les Palestiniens aussi, hein, d'ailleurs.
C'est leur problème, mais si vous voulez, mon problème est tout à fait différent. Israël est un État-nation dans lequel... Qu'est-ce qu'un État-nation ? C'est un État dans lequel il y a une superposition d'un pouvoir, de frontières et d'une culture. La culture, c'est celle du peuple dominant. En France, on parle français. On ne parle pas l'arabe, ni l'espagnol, ni rien du tout. En Israël, on parle hébreu. Et c'est ça. Et donc, il y a dans un État-nation, il y a ce que vivent les Juifs, une distinction entre,
il y a une majorité juive,
entre le privé et le public. Dans le public, nous sommes français. Dans le privé, nous pouvons cultiver notre judaïsme dans la situation française, d'accord ? La même chose est pour Israël. Les citoyens arabes d'Israël ont le privé pour se manifester. Par ailleurs, ils bénéficient de tous les droits des Israéliens, mais ils sont israéliens. Et c'est ça le problème. Alors, je ne dis pas que ça ne pose pas de problème, qu'il n'y ait pas de... C'est clair, il y a tout un débat à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça signifie justement d'avoir des frontières pour un État juif ? Et quelles frontières ?
Mais c'est justement la question aussi de la non-étatisation et de l'histoire de la non-étatisation des Juifs trouve peut-être une sorte de personnification par cette difficulté à trouver des frontières et à les faire accepter aussi.
Il ne faut pas oublier l'histoire, et j'y consacre d'ailleurs un chapitre important. Comment les Juifs sont devenus des citoyens en France ? Ils sont devenus des citoyens, tout pour les Juifs en tant qu'individu, rien pour les Juifs en tant que nation. C'est le principe de la Constituante. Et donc les Juifs se sont alignés sur ces... Ils n'avaient plus le droit d'exister comme collectivité, comme communauté, comme État, etc.
Comme communauté, si.
Non. Tout pour les Juifs en tant qu'individu, oui. Rien pour les Juifs
mais
en tant que peuple.
Il y a des synagogues.
Non, mais attendez, il y a toute une histoire qui vient après. Et c'est Napoléon qui crée le consistoire et oblige les Juifs à y adhérer.
Oui.
Donc il y a une communauté à ce niveau-là.
Oui.
Voilà. Mais en fait, tout le problème, la pensée constitutionnelle française, elle est centraliste. Et ça se ressent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Herzl a conçu l'État juif à Paris. Parce qu'il a compris l'enjeu. Si tous les droits que les Juifs pouvaient avoir étaient des droits individuels et pas collectifs, que devenait le collectif, le peuple juif ?
Et c'est aussi à cause de ce qu'il a assisté en matière d'antisémitisme par rapport à l'affaire Dreyfus aussi.
Et c'est là où il invente l'État juif. Et donc, en fait, qui vise à compenser cette défaillance sur le plan de l'émancipation des Juifs. La Shoah, etc., etc. Bon, il y a toute une histoire à ce niveau-là. Et le problème, c'est comment concevoir aujourd'hui la collectivité juive. C'est un cas de la théorie politique. Bon, je vais pas y
répondre. Est-ce qu'il faut la concevoir ? Est-ce qu'il faut la laisser vivre ?
Ben, en tout cas, pour moi, non, il faut la concevoir.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a une tâche philosophico-politique à assumer encore aujourd'hui. Le cheminement n'est pas fini. Et donc, c'est cette tâche qui nécessite justement de comprendre quelle lecture nous faisons des textes juifs pour comprendre la nature d'une collectivité humaine. Bon, alors, il y a toute une histoire, hein, on peut la comparer avec Antonio Negri, avec toutes sortes de conceptions du collectif. Aujourd'hui, c'est une question très importante qui se pose en Israël.
Pourquoi est-elle particulièrement importante aujourd'hui ?
Mais parce qu'elle se traduit par une réalité sur le terrain, parce qu'il y a des citoyens qui ne sont pas juifs dans la citoyenneté israélienne, et parce que nous sommes dans le cadre d'un État moderne. Et donc, comment tout ça se cale-t-il sur les fondements mêmes de la transmission symbolique, intellectuelle de... C'est-à-dire,
jusqu'à présent, l'État juif a continué à avancer, à prospérer avec des contours flous, avec une place spécifique accordée aussi aux minorités, qui est différente de la place que les minorités peuvent avoir en Occident. Et qui est compliqué à concevoir, non seulement pour les pays occidentaux, mais même pour nous, juifs. Ces contours flous, cet aspect qui pourrait ressembler à quelque chose qui viendrait de l'Occident, mais en fait pas vraiment, parce qu'aujourd'hui la majorité des juifs en Israël ne viennent plus d'Europe. Est-ce que tout ça, vous dites, il faut faire un cadre, il faut construire une théorie politique, il faut en faire un cadre, mais Israël a avancé avec ce cadre bancal?
Oui, mais la question se pose, y compris à l'Occident, évidemment au reste du monde, à savoir quelle est la nature de la collectivité humaine. Regardez l'Europe, par exemple. La question nationale est une question qui devient brûlante par rapport à une question impériale, si l'on peut dire, parce que...
Ou internationale.
Dans l'histoire, c'est le traité de Westphalie au XVIIe siècle qui a mis en place la forme d'État-nation pour sortir de deux siècles de guerre de religion, avec la naissance du protestantisme, etc. Et donc, en fait, nous sommes les héritiers de ce modèle. Mais peut-être qu'il y a un autre modèle. Aujourd'hui, on conteste le pouvoir européen par rapport au pouvoir national. Qu'est-ce que ça va produire? Je n'en sais rien, mais le pouvoir européen... Est-ce que c'est un empire, l'Europe? C'est une question qui peut se poser.
En quoi le chemin de Jérusalem que vous tracez, dernière question, répond-il à cette question brûlante, justement, des nationalismes et de la collectivité qui, vous l'appuyez, vous avez raison, connaît une crise actuellement?
Bien, j'ai tout un chapitre originel où j'essaye de comprendre quels sont les éléments que le judaïsme nous donne, ou la judéité nous donne, pour penser ce problème-là. Et donc, je crois que c'est un problème d'ordre général et ça peut être notre apport à l'humanité contemporaine, d'arriver à penser une autre politique. Et c'est dans ce sens-là de la créativité que je parle de revenir à ces modèles fondamentaux dont il faut faire la traduction et la compréhension aujourd'hui. Voilà, donc j'emploie une image... pour clore le livre, qui compare la situation à l'Arche de Noé. Dans l'Arche de Noé, il y a une lucarne qui permet d'éclairer l'obscurité dans laquelle se trouvent tous les groupes, humains. Il y a des hommes, il y a des animaux. Et voilà, donc l'idée, c'est d'ouvrir cette lucarne.
Eh bien, une lucarne à ouvrir, donc, le chemin de Jérusalem, une théologie politique de Shmuel Trigano, paru aux éditions Les Provinciales. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Merci
beaucoup.
Radio J. Radio J, le grand entretien.
Radio J. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le grand rabbin.
Bonjour.
Nous avons le plaisir, comme nous en avons pris l'habitude d'ailleurs, de vous retrouver avant un de nos grands rendez-vous. Les grandes réjouissances de Hanouka. Alors ça nous permet bien sûr de refaire un petit peu le point, de réfléchir à ce qu'est Hanouka, puisque Hanouka est une fête un peu différente de toutes les autres, me semble-t-il. Et je vais vous demander justement votre vision. Voilà une fête où on extériorise énormément, alors que nous en connaissons d'autres, même quand ce sont des fêtes majeures, comme celle de Pessah, par exemple, ou au contraire... les prescriptions conduisent plutôt à intérioriser. Est-ce que Hanouka est une fête pour l'extérieur?
Oui, c'est une fête où il y a une notion hébraïque qui s'appelle Persouma Denissa, la diffusion du miracle, qui existe exclusivement pour cette fête. C'est d'ailleurs le sens des grands allumages à l'extérieur qui ont cours un peu partout. Et c'est aussi l'idée qu'on ne veut pas avoir de la lumière que pour soi, si elle n'est pas partagée. D'ailleurs, c'est très intéressant. La vocation du peuple juif d'être hors la goyim, une lumière pour les nations. Si vous avez la lumière et que vous n'éclairez pas les autres, ça ne sert à rien. Donc, en fait, un moment, l'idée de lumière, il faut la partager. D'où l'idée de diffusion du miracle. Ce miracle qui concerne tout le monde. Si on fait le pitch de Hanouka, un petit groupe, peu nombreux, peu armés, pas fort du tout, l'a emporté sur une grande armée, très forte. Voilà. Ça concerne tout le monde. C'est le mythe de la Coupe de France de football, où le petit poussé, genre club de 5e, 6e division, vient taper un club de 1ère division, et ça fait les grands titres. C'est cette idée que rien n'est inscrit d'avance. Il faut faire confiance. Avoir confiance, alors pour nous, en Dieu, et pour ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, avoir confiance dans son destin, son engagement, sa motivation. Et cette fête, je trouve qu'elle est particulièrement actuelle. C'est-à-dire le miracle de nos fêtes. D'année après année, elles ne sont pas les mêmes. La situation est différente. L'espérance qu'elles amènent avec elles n'est jamais la même. Et donc, là, j'ai le sentiment que ce Hanouka qui amène de l'espérance et qui est vraiment vital en ce moment est utile, serait utile pour l'ensemble de la société, très largement. D'où l'intérêt de diffuser ce miracle, c'est-à-dire d'en parler. Je veux bien que les allumages des lumières soient très importants, mais le fait d'en parler, c'est très important. J'étais hier dans mes anciennes fonctions d'aumônier militaire, donc j'étais à Ballard, où étaient réunis beaucoup de gens pour parler de Hanouka. La moitié n'était pas juif, mais tous sont sortis touchés, bouleversés par quelque chose qui les a nourris dans leurs questions sur le temps d'aujourd'hui. C'est le principe, d'ailleurs, des fêtes juives. C'est pas la commémoration d'un fait passé. C'est comment on peut aujourd'hui vivre avec l'élan qui a été posé par le fait. Et d'ailleurs, c'est une des grandes spécificités de Hanouka. Ce n'est pas un texte dans le canon biblique juif. On célèbre une fête de 8 jours. On a des impératifs rituels. Le Hallel, la sortie de la Torah, l'allumage des bougies, une demi-heure, enfin bref, des règles, la halakha. Et pourtant, ce qui sert de support à tout cela, ce texte n'est pas dans le canon biblique. Parce que les rachamim, les sages, ont décidé que le critère double de Miyad Veladorot, fait que son texte valable maintenant et pour les siècles des siècles, les générations, ne fonctionnait pas avec ce texte qui était vraiment très daté. La vocation d'Israël, c'est pas de faire des guerres. Dit d'autres, nous les font, il vaut mieux les gagner. Mais c'est pas sa vocation. On peut pas vouloir modéliser cette idée d'un Israël qui aurait oublié ce verset incroyable de la Bible, l'obéchaïl v'l'obéchoar, qui imberouchi. C'est pas avec le nombre, pas avec la puissance que vous allez l'emporter, avec mon souffle. Et donc, s'il y a une confrontation, ah oui, il faut la gagner. Mais c'est pas le job d'Israël de se confronter militairement. Son job, c'est de porter le souffle, la parole de Dieu.
Donc on le voit dans la fête de Hanouka, puisque la cérémonie essentielle, en réalité, de Hanouka, comme vous le disiez à l'instant, c'est l'allumage des lumières, l'allumage du chandelier, de la menorah. Or, on a tendance à se dire que malgré tout, le miracle essentiel de la fête, comme vous venez de le dire, c'est la victoire militaire, effectivement, un tout petit groupe d'hommes qui réussit à abattre la grande puissance du temps. Or, cela est à peine rappelé dans la semaine de fête.
Oui, certaines interprétations expliquent que le premier jour, ce serait cela, célébrer la victoire militaire. Mais moi, j'aime bien une autre interprétation, il y a plusieurs. Mais celle de cette année que je vous livre, elle est complètement différente. Font le premier jour, c'est l'an passé. Vous avez une fiole d'huile qui doit durer un jour. Au lieu de durer un jour, elle dure 8 jours. Mais le premier jour, vous ne savez pas qu'il va y avoir un miracle. Le premier jour, vous allumez les bougies, les lampes, ça brûle, normal. Et voilà, ils se disent, ça va s'éteindre ce soir. Donc le premier jour, il n'y a rien de miraculeux. Pourquoi on allume les bougies le premier jour ? On devrait allumer que pour les 7 jours suivants. Bon, il y a plusieurs interprétations, mais l'une de celles que je voudrais vous livrer cette année, Il s'est rien passé? Parfait, c'est un miracle. Quoi, que le soleil se lève, qu'on se réveille, qu'on vive, qu'on puisse respirer, que l'équilibre du monde ne soit pas déstabilisé, c'est déjà pas un miracle, ça? Est-ce que, finalement, la grande force de Hanouka, c'est pas de dire, mon Dieu, merci juste de pouvoir exister, comme on le dit le matin dans la prière. Merci, mon Dieu, de me rendre l'âme sans laquelle je pourrais pas vivre. Tu m'as rendu mon âme avec une immense miséricorde. Je suis persuadé que il y a quelque chose de très fort aujourd'hui dans la capacité qu'on aurait à reconnaître les miracles dans nos vies. Et on serait bien moins amer si on était capable de lister tous les miracles. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive est un miracle. Les rencontres qu'on fait sont des miracles. Les gens qu'on aime qui sont en bonne santé, c'est un miracle. Cette simplification. Alors, vous aimez, oui, c'est trop facile, tout est miracle. Oui, tout est miracle.
Oui, c'est d'ailleurs un enseignement du Baal Shem Tov.
Bah, j'aime bien le Baal Shem Tov, moi. Tout est miracle, on ne sait pas le voir. Et c'est peut-être ça, le drame de notre société, tellement matérialiste qu'elle croit qu'un miracle, c'est un truc extraordinaire. Moi, je vais considérer ça, de manière. Je veux bien que le miracle soit quelque chose de plus visible, mais ce n'est pas tant qu'il soit visible, c'est que ce soit quelque chose de visible qui apparaît au moment où il faut. Donc, c'est la conjonction d'un événement et d'un temps. Bah, le fait qu'on se lève, que ça fonctionne. Et en fait, la normalité est un miracle. Et si on est capable de reconnaître ça, c'est pas mal parce que c'est une façon finalement de rendre grâce à Dieu tous les jours. Et on, si on était sur cette logique, d'ailleurs, il faudrait allumer les bougies 365 jours par an parce que c'est tous les jours que nous avons des miracles autour de nous, dans notre vie. Et on ne sait pas les voir. C'est la vraie question de Hanouka, c'est qu'on ne sait pas les voir. Et peut-être que l'idée de Pierre Soumadini, ça c'est ça. C'est être capable de dévoiler le miracle quotidien, qu'on ne voit plus. Parce que c'était par exemple le problème de la manne dans le désert. Si la manne tombait tous les jours, 40 ans, 40 ans, tous les jours ça tombe. Eh ben non, ça ne tombait pas le Shabbat. Donc il y avait un jour où vous avez l'angoisse de savoir si le dimanche ça allait reprendre ou pas. Vous voyez, quand quelque chose est régulier, et puis à un moment, est-ce que ça va se refaire? Non, oui. La réalité du monde, elle est qu'on s'habitue à tout, même aux miracles.
Et puis la lumière est croissante pendant tout Hanouka.
Ça aurait pu être différent. C'est parce que nous, on a choisi la vision de Hillel. Et donc, il y avait un autre rabbin qui lui pensait qu'il fallait avoir une lumière décroissante. Allumer 8 jours, 8 bougies le premier jour, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chaque jour en diminuant, pour que on arrive ensuite à se passer de lumière, comme si on nous désintoxiquait de la lumière, au sens que beaucoup de lumière, et puis après on s'habitue, on n'a plus besoin d'autant de lumière pour vivre. Il se trouve que c'est pas ce que nous avons. Nous avons une logique croissante, qui est un peu comme un tremplin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors et 9, ben on est lancé. Et maintenant, on n'a peut-être plus besoin du support des lumières pour nous rappeler que oui, tout ce que Dieu nous donne, ce sont des miracles qui doivent éclairer. Ce que Dieu nous donne doit éclairer nos vies, la vie de celles et ceux qu'on aime, qui sont autour de nous, et qu'on a donc une responsabilité à avoir autant de grâce de Dieu.
Dans ce moment de Hanouka, à chaque soir, où on allume donc les lumières, on allume les lumières et on le fait justement quand la nuit tombe. Alors évidemment, ça évoque beaucoup de choses. Il y a de très nombreux commentaires qui développent cette vision. Sommes-nous capables aujourd'hui de disperser la nuit?
Non, moi je suis porté par une vision d'Edmond Flegg, qui dans une pièce de théâtre magnifique qui s'appelle Juge du Pape, dit « La nuit la plus sombre annonce l'aube la plus lumineuse ». D'autres l'ont dit, Apollinaire. Ou la Torah, Vayerev, Vayeboker. Ou le prophète Isaïe, veilleur, où en est la nuit? La nuit vient, le jour vient. Et oui, la nuit vient, ça c'est sûr. Le jour vient aussi. Donc, il faut s'engager à disperser la nuit. Mais comment on disperse la nuit? La lumière, c'est sûr, vous avez raison. Vous avez mis de côté, mais je vous connais pas, pour me laisser pouvoir le dire, vous avez mis de côté une tradition formidable de Hanouka. La consommation des beignets. Alors, prenez des notes, c'est important. Les natures, avec beaucoup de sel. Fourré au chocolat, fourré au, à la confiture de fraises, à la crème anglaise, on s'en met partout, bref.
Ce sont des novations modernes, il faut le dire.
Ah, moi, je pense que déjà, à l'époque, il y avait la crème anglaise dans les beignets. En revanche, les beignets, c'est très ancien, parce que c'est l'idée d'incorporer l'objet du miracle. L'huile va brûler 8 jours, au lieu de brûler 1 jour. L'huile est l'objet du miracle. En incorporant cet objet, on devient nous-mêmes un objet du miracle. C'est-à-dire que j'intègre l'objet du miracle pour moi-même répondre à Dieu plus que je ne le fais. Comme l'huile qui a brûlé plus, moi, j'ai donné plus à Dieu, aux autres, aux hommes autour de moi. Et donc, cette idée, elle est très forte.